Guccio embrassa son oncle avec émotion. Il n'avait pas besoin cette fois de se créer un personnage ni de s'inventer un rôle. Le rôle venait à lui. Une heure plus tard, il quittait la rue des Lombards. Alors, Messer Spinello Tolomei mit son manteau doublé de fourrure, car l'octobre était frais. Il appela un serviteur auquel il fit prendre torche et dague, et se rendit à l'hôtel de Marigny. Il attendit un long moment, d'abord dans la conciergerie, puis dans une salle des gardes qui servait d'antichambre. Le coadjuteur menait train royal et il y avait grand mouvement en sa demeure, jusqu'à fort tard. Messer Tolomei était homme patient. Il rappela sa présence à plusieurs reprises, en insistant sur la nécessité qu'il avait d'entretenir le coadjuteur en personne. « Venez, messer, » lui dit enfin un secrétaire. Tolomei traversa trois grandes salles et se trouva en face d'Enguerrand de Marigny qui, seul dans son cabinet, finissait de souper tout en travaillant. « Voici une visite imprévue, » dit Marigny froidement. « Quelle est votre affaire ?» Tolomei répondit d'une voix aussi froide. « Affaire du royaume, monseigneur. » Marigny lui désigna un siège. « Éclairez-moi, » dit-il. « Il est bruit depuis quelques jours, monseigneur, d'une certaine mesure qui se préparerait en conseil du roi et qui toucherait au privilège des compagnies lombardes. Le bruit à se répandre nous inquiète et gêne fort le commerce. La confiance est suspendue, les acheteurs se font rares, les fournisseurs exigent paiement sur l'heure, nos débiteurs diffèrent de s'acquitter. « Cela n'est point affaire du royaume, » répondit Marigny. « À voir, monseigneur, à voir. Beaucoup de gens ici et ailleurs s'émeuvent. On en parle même hors de France. » Marigny se frotta le menton et la joue. « On parle trop. Vous êtes un homme raisonnable, messer Tolomei. Et vous ne devez pas accorder foi à ces bruits, » dit-il en regardant tranquillement un des hommes qu'il s'apprêtait à abattre. « Si vous me l'affirmez, monseigneur... Mais la guerre flamande a coûté fort cher et le trésor peut se trouver en nécessité d'or frais. Aussi avons-nous préparé un projet. Votre commerce, je le répète, n'est point affaire qui me concerne. » Tolomei leva la main comme pour dire « Patience, vous ne savez pas tout » et poursuivit. Si nous n'avons pas pris parole à la grande assemblée, nous n'en sommes pas moins désireux de fournir aide à notre roi bien-aimé. Nous sommes disposés à un gros prêt auquel participeraient toutes les compagnies lombardes, sans limite de temps, et au plus faible intérêt. Je suis ici pour vous en donner avis. » Puis Tolomei se pencha et murmura un chiffre. Marigny tressaillit, mais aussitôt pensa « S'ils sont prêts à s'amputer de cette somme, c'est qu'il y a 20 fois plus à prendre. » À lire beaucoup et à veiller ainsi qu'il le faisait, ses yeux se fatiguaient et il avait les paupières rouges. « C'est bonne pensée et louable intention dont je vous sais gré, » dit-il après un silence. « Il convient toutefois que je vous témoigne ma surprise. Il m'est venu aux oreilles que certaines compagnies auraient dirigé vers l'Italie des convois d'or. Cet or ne saurait être en même temps ici et là-bas. » Tolomei ferma tout à fait l'œil gauche. « Vous êtes un homme raisonnable, monseigneur, et vous ne devez pas accorder foi à ces bruits-là, » dit-il en reprenant les propres paroles du coadjuteur. Notre offre n'est-elle pas la preuve de notre bonne foi? Je souhaite pouvoir donner croyance à ce que vous m'assurez, car, si cela n'était, le roi ne saurait souffrir ces brèches à la fortune de la France, et il lui faudrait y mettre terme. Tolomei ne broncha pas. La fuite des capitaux lombards avait commencé du fait de la menace des spoliations, et cet exode allait servir à Marigny pour justifier la mesure. C'était le cercle vicieux. « Je vois qu'en cela, au moins, vous considérez notre négoce comme affaire du royaume, » répondit le banquier. « Nous sommes dit, je crois, ce qu'il fallait, messer Tolomei, » conclut Marigny. « Certes, monseigneur. » Tolomei se leva et fit un pas. Puis soudain, comme si quelque chose lui revenait en mémoire, « Monseigneur l'archevêque de Sens, est-il en la ville ? » demanda-t-il. « Il y est. » Tolomei hocha la tête pensivement. « Vous avez plus que moi occasion de le voir. Votre seigneurie aurait-elle l'obligeance de lui faire savoir que je souhaiterais l'entretenir dès demain, et quelle que soit l'heure, du sujet qu'il sait, mon avis lui importera. » « Qu'avez-vous à lui dire ? J'ignorais qu'il eût affaire avec vous. » « Monseigneur, » dit Tolomei en s'inclinant, « la première vertu d'un banquier, c'est de savoir se taire. » « Toutefois, comme vous êtes frère de monseigneur de Sens, je puis vous confier qu'il s'agit de son bien, du nôtre et de celui de notre sainte mère l'Église. Puis, comme il allait sortir, il répéta sèchement : « Dès demain, s'il lui plaît. »